Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild over honey child. Honey child's got me feeling funny.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, notre émission de ce soir sera consacrée à un compositeur d'aujourd'hui ou presque, puisqu'il s'agit d'Alexandre Tanzmann. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais je suis persuadé qu'à la fin de cette émission, vous connaîtrez tous Alexandre Tanzmann, ce compositeur polonais, juif, né à Łódź en 1897 et mort à Paris en 1986. Et en janvier 2013, les éditions Aida Musicae ont publié justement les mémoires d'Alexandre Tanzmann sous le titre « Regard au pluriel en arrière », itinéraire d'un musicien cosmopolite au XXe siècle, dans la collection Musique XXe-XXIe siècle, dirigée par François Meymoun. Et ce texte a été édité par Cédric Segond Genovesi, avec la collaboration de Mireille Tanzmann-Zanutini et Marianne Tanzmann-Martinozzi. Et justement, avec moi ce soir dans ce studio, j'ai le plaisir d'accueillir deux des contributeurs de cet ouvrage tout à fait remarquable, donc Mireille Tanzmann-Zanutini. Zanutini, je vous appellerai Mireille Tanzmann pour simplifier un peu les choses, si ça ne vous dérange pas.
Bien sûr.
Et Cédric Segond Genovesi, et je vais faire pareil, je vais peut-être simplifier en vous appelant même peut-être Cédric et Mireille.
Voilà, très
bonsoir
bien.
À tous les deux, et merci infiniment d'être présents pour parler de Alexandre Tanzmann. Pour vous présenter juste un mot, Cédric Segond, alors vous avez un palmarès étoffé, on va dire, et je ne dirai que quelques mots. Vous êtes agrégé de musique et diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et vous enseignez à l'Université Paris-Sorbonne. Vos travaux et publications portent notamment sur l'histoire des pratiques musicales et musicographiques en France au XIXe et XXe siècle. On précise que vous n'aimez pas vous ennuyer, que vous préparez en plus une thèse de doctorat sur Nadia Boulanger, cette grande pianiste née en 1887 et décédée en 1979. Et depuis donc 2011, vous êtes en charge de la collection Musique 19e-20e et vous co-dirigez en plus la collection Musique Repère aux éditions Aida Musicae. Mireille Tanzmann, on peut dire que c'est plus simple, mais en même temps, c'est peut-être plus compliqué, parce que d'être la fille d'un compositeur comme Alexandre Tanzmann, ça doit pas être tous les jours facile. Mais vous êtes née, alors ça se dit peut-être pas en 1939 quand même, c'est
on
pas
est
grave.
Habitué.
De toute façon, vous êtes comme une jeune fille ici dans ce studio. Et votre sœur Marianne est née un an plus tard en 1940. Et donc, vos parents, donc Colette Crass, qui est décédée malheureusement alors que vous étiez jeune, on en reparlera dans le courant de cette émission, et votre père, donc le compositeur Alexandre Tanzmann. Et pourquoi donc se retrouver? C'est parce qu'entre 1954 et 1958, votre père a couché sur le papier le récit de sa vie, et une vie absolument passionnante. Et votre père est décédé en 1986, donc bien après, presque 27 ans après avoir écrit ses mémoires, ses regards en arrière, comme le dit le titre de ce livre. Alors pourquoi publier aujourd'hui seulement maintenant ses mémoires, Mireille?
Eh bien, il se passe qu'après la mort de mon père, ma sœur et moi avons découvert 4 petits cahiers manuscrits. Et sur la couverture, disons à l'intérieur de la couverture du premier cahier, il écrit « J'écris cette relation de ma vie pour moi et pour mes enfants. En aucune façon, elle ne devra être publiée, même partiellement, avant 20 ans suivant ma mort. » Bon, alors ma sœur et moi l'avons transcrit, les années ont passé, et puis il fallait trouver un éditeur. Et Cédric, voilà, si Lalu a été intéressé, puis François Maïmoun, et bien sûr, il fallait faire un énorme travail scientifique dessus, de recherche, de correction, de relecture à partir des cahiers manuscrits. Et donc, c'est Cédric, ici présent, qui s'en est chargé magnifiquement.
Très bien. Et bien alors, justement, pour permettre à nos auditeurs de rentrer dans l'univers musical d'Alexandre Tanzmann, je vous propose d'écouter tout de suite une courte pièce qui s'appelle Coconut's Groove, le tour, qui est extrait d'un ensemble de pièces qui s'appelle Le Tour du Monde en miniature, écrit en 1933. Et j'en dirai peut-être quelques mots après avoir écouté cette pièce. Coconut's Groove de Alexandre Tanzmann, une pièce pour piano extraite du CD Romantic Polish Piano Music, interprétée ici par Waldemar Maliki. Et c'était une des, je crois, 11 étapes de ce tour du monde en miniature, œuvre de 1933. Cédric Segond, ça sonne très jazz, tout ça, non ?
C'est très jazz, effectivement. C'est très jazz et très blues aussi. C'est une œuvre qui est un souvenir d'Hollywood, Californie, en l'occurrence ici. Et c'est une œuvre qui témoigne bien des influences très diverses qu'on peut trouver dans la musique d'Alexandre Tanzmann, qui a fréquenté beaucoup de compositeurs comme Gershwin, qui a connu aussi Fred Astaire, qui s'installe en France dans les années 20 et qui fait ses premières tournées aux États-Unis à la fin des années 20, en 1927. Et donc évidemment, c'est pour lui l'occasion, comme beaucoup de compositeurs européens à ce moment-là, de découvrir ses musiques comme Mio, comme Ravel, comme d'autres. Et donc effectivement, le jazz fait partie de ces très nombreuses influences qui composent le style d'Alexandre Tanzmann. Alors ici, on avait une pièce, je dirais peut-être une pièce de genre un peu caractéristique, mais évidemment, l'influence est parfois beaucoup plus subtile, beaucoup moins apparente, beaucoup plus, notamment dans les quatuors, dans la symphonie, dans le second concerto pour piano notamment, qui est dédié à Chaplin et que Tanzmann compose pour sa tournée aux États-Unis, pour sa seconde tournée aux États-Unis. Donc effectivement, le jazz fait partie des influences importantes dans l'œuvre de Tanzmann.
Et alors justement, oui, c'est comme vous parlez de l'œuvre de Tanzmann, c'est une œuvre absolument imposante, on en reparlera, mais presque 300 opus, enfin c'est énorme, et dans lesquels bien sûr il y a des œuvres, entre guillemets, d'inspiration juive, on va en parler tout de suite après, mais si on veut, là on voit une influence du jazz, mais comme vous l'avez cité chez Tanzmann, il y a énormément d'autres influences, on a beaucoup de mal, je crois, à classer Tanzmann dans un style musical particulier, non ?
Alors oui et non, il existe évidemment des étiquettes qui sont toutes faites, qui sont très pratiques pour classer les compositeurs. Tansman appartient à ce qu'on a appelé dans les années 30 l'école de Paris, c'est-à-dire ces compositeurs généralement d'Europe de l'Est qui venaient s'installer à Paris dans les années 20-30 pour y travailler.
Comme quel autre compositeur, par exemple ?
Comme Tibor Arseny, par exemple, comme Marcel Mialovici, comme Alexandre Tcherepnine, cette génération de compositeurs, et qui, je vais dire, nourrit par les influences qui... nourri par les influences diverses qu'on peut entendre à Paris à ce moment-là, évidemment, vont eux-mêmes développer un langage qui est, je veux dire, très, très multiple, très, très complexe, qui vont se nourrir à la fois de jazz, à la fois de musique extra-européenne. Tansman voyage aussi beaucoup, donc il découvre ces musiques-là en 32-33. Chez Tansman, de la musique juive, on va en parler tout à l'heure, de ce courant qui est le néoclassicisme dans l'entre-deux-guerres, donc qui est aussi qui est finalement assez proche de l'esthétique du groupe des Six, des compositeurs français. Donc voilà pour cette esthétique effectivement qui est celle de Tansman dans l'entre-deux-guerres. Son langage est à la fois personnel, puisque bon, un auditeur, évidemment moi avec la pratique, je reconnais assez immédiatement le style de Tansman, mais évidemment, je veux dire, sa musique est assez représentative de ce qu'on pouvait de l'entre-deux-guerres de manière générale.
Oui, et comme vous le dites, on va entendre tout au long de cette émission des œuvres, donc plutôt des œuvres d'inspiration juive de Alexandre Tansman. Moi, j'ai été surpris à chaque fois, il y a quand même un langage qui change, qui n'est jamais le même. En fait, c'est vrai qu'il faut vraiment être spécialisé pour reconnaître que c'est, entre guillemets, du Tansman.
Oui, effectivement, Tansman a des tics d'écriture. Parfois, évidemment, quand on connaît bien son œuvre, on peut repérer certains tics d'écriture chez Tansman, effectivement. Mais cela dit, c'est une œuvre qui est tellement multiple, qui est tellement protéiforme, qui est tellement nourri et baigné de dizaines d'influences, mais qui, en même temps, ces influences aboutissent à un langage qui est assez personnel, enfin, qui est assez, assez reconnaissable, en tout cas en pratiquant un peu l'œuvre de Tansman. Mais effectivement, bon, Tansman considère que c'est tout à fait naturel d'avoir des influences, c'est normal qu'un compositeur ait des influences. Et chez Tansman, c'est aussi lié à son parcours, à sa vie qui a été très complexe, très riche. Il a beaucoup voyagé, il a connu beaucoup de gens, donc effectivement, on a du jazz, on a de la musique polonaise, on a de la musique juive, on a des musiques extra-européennes, on a des influences plus néoclassiques, françaises, etc. etc. Et tout ça, mélangé, donne du Alexandre Tansman.
Et c'est pour ça que vous sous-titrez le livre « Regard en arrière » de ses mémoires d'Alexandre Tansman, itinéraire d'un musicien cosmopolite, je pense, parce que le terme convient, je crois,
parfaitement. Je pense que le terme est tout à fait juste pour parler d'Alexandre Tansman, effectivement.
Donc Alexandre Tansman, un compositeur à découvrir et que nous allons découvrir ce soir, un enfant prodige. Donc, mais alors prodige et en même temps, par rapport aux années 30, on l'entend plus beaucoup aujourd'hui. Il a traversé une période un peu difficile, je crois, une espèce de purgatoire dans les années 1970-80, tout au moins en France. Comment on peut expliquer ce passage un petit peu difficile ?
Oui, alors évidemment, il est toujours délicat et toujours difficile de donner une explication particulière et définitive au fait que l'on joue plus ou moins l'œuvre d'un compositeur ou qu'on cesse de la jouer à un moment donné. Dans le cas de Tansman, son cas me semble assez caractéristique de cette génération de l'entre-deux-guerres. Je dirais que c'est une question à la fois esthétique et générationnelle. Tansman est un compositeur d'avant-garde, est un jeune compositeur moderne dans les années 20, dans les années 30. Et puis, quand il rentre de cet exil forcé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre, qu'il rentre en France en 1946, évidemment, la tectonique de la vie musicale a quelque peu évolué. D'autres institutions se sont créées, d'autres courants musicaux ont émergé, notamment la jeune génération de compositeurs sériels, notamment Pierre Boulez, mais ces compositeurs nés dans les années 20, pour la plupart, autour de 1925, et qui... effectivement, vont s'imposer dans le paysage musical français à ce moment-là, et vont surtout intéresser évidemment aussi une nouvelle génération de critiques musicaux, de musicographes, et vont notamment, imposer une lecture de l'histoire musicale du XXe siècle qui est très sélective, qui est très orientée, qui tend évidemment à privilégier la piste de Schoenberg, de Webern et du sérialisme comme aboutissement nécessaire et historique à l'histoire du langage musical. Donc évidemment, Tansman, qui est un compositeur à l'instar de Millau ou d'autres, qui est un compositeur tonal de l'entre-deux-guerres, voilà, effectivement, malgré lui, devient un compositeur d'arrière-garde, je dirais, entre guillemets. Mais cela dit, le paradoxe, évidemment, est qu'il reste extrêmement joué. Il enchaîne les tournées dans les années 50, dans les années 60. Il est très joué à la radio. La radiodiffusion française lui passe énormément de commandes. Il a beaucoup de commandes d'État pour des concerts, de grandes œuvres qui sont créées à ce moment-là. Donc il est à la fois très exposé, très joué. Et puis, du côté de la critique musicale, des musicographes, et puis de ces nouvelles générations de compositeurs, de jeunes compositeurs, les sériels, puis la musique électroacoustique, concrète, spectrale, etc., etc., évidemment, évidemment, son langage et ses préoccupations se détachent des préoccupations qui sont celles d'un Boulez ou d'autres au même moment. Et donc, évidemment, je pense que ce phénomène-là, ces décennies de préoccupations sérielles dans les années 50, 60, 70, ont quelque peu contribué à occulter l'œuvre de Tansman dans les années 70, 80 et au début des années 90. Alors, évidemment, il y aurait d'autres explications avancées, notamment le fait que Tansman a aussi été un grand compositeur d'œuvres pédagogiques, de piano. Il a écrit beaucoup de petites pièces faciles pour le piano. Et donc, effectivement, il est beaucoup resté comme un compositeur pour enfants. Moi-même, avant de commencer à travailler sur ce livre, mon bagage de pianiste faisait que Tansman, ça me disait avant tout, ça me rappelait les pièces que j'avais travaillées dans ma jeunesse comme pianiste. Donc voilà, il y a beaucoup de choses.
Je sens que vous avez effectivement
connu à fond.
Ah oui, absolument.
Oui.
Donc oui, je voulais vous poser une question, Mireille, à ce propos, puisque votre père, comme on l'a dit, est né dans une famille juive de polonaise, oui. À Lodz. Enfin, c'était même pas encore la Pologne, c'était l'Empire russe à l'époque en 1897.
Bien sûr, oui, sous la domination russe, bien sûr, oui.
Et c'était une famille, j'ai bien lu le livre, hein, vous verrez, donc la grande bourgeoisie juive, dans laquelle il a été initié très tôt à la musique. Je crois qu'il y avait un véritable attrait.
Oui, parce qu'en fait, il a baigné très tôt dans... une ambiance musicale. Son père, tout en étant exportateur de textiles, était très mélomane. Il en faisait beaucoup de musique de chambre chez lui. Et donc très tôt, quoi votre...
Il a donc été initié. Il a eu des cours de musique.
Bon, il a eu, bien sûr, très tôt des cours de musique, de théorie musicale.
Et il y a quelque chose qui m'a assez fasciné justement, oui. C'est que c'est cette anecdote que vous racontez dans le livre, enfin que plutôt lui raconte par rapport au concours qu'il a passé, vous savez, quand la Pologne est devenue indépendante.
Ah oui.
Alors si vous pouvez nous la raconter, parce qu'elle est quand même extraordinaire, cette anecdote.
Cette anecdote, c'est-à-dire que lui, c'était le premier concours national de la Pologne indépendante, et il a présenté trois œuvres sous trois pseudonymes différentes. Et puis, et tout d'un coup, il n'y pensait plus. Un jour, il se promène dans la rue et puis il achète le journal et il voit qu'il a gagné les trois premiers prix. Alors, il avait un sabre, un costume d'étudiant. Il était fou de joie et voilà, ce qui lui a permis, entre autres, de pouvoir venir à Paris.
À Paris. Oui. Et c'est comme ça qu'il arrive à Paris en 1919. Oui. Et on va écouter une de ses œuvres qui est un peu plus lointaine, qui date de 1933.
Oui.
Une de ses premières œuvres, je dirais, d'inspiration juive, la Rhapsodie hébraïque de Alexandre Tansman.
Oui.
Thank you.
Rhapsodie hébraïque de Alexandre Tanzmann, une œuvre interprétée ici par le pianiste Waldemar Maleki. Cette œuvre existe d'ailleurs pour orchestre, elle a été orchestrée, elle a été créée donc dans les années 35, il y a eu plusieurs exécutions, et en fait elle proviendrait d'une demande en fait, à partir de 1933 d'écriture de plusieurs chants hébraïques, de 12 exactement, qui est sa première œuvre vraiment d'inspiration véritablement juive. En fait, Gérald Hugo, dans son très beau livre aussi sur Alexandre Tanzmann, Une voix lyrique dans un siècle bouleversé, dit que Alexandre Tanzmann, à l'occasion, en 1933, perd sa mère, et c'est la mort de sa mère qui le retourne en quelque sorte, et le retourne au sens réel du terme, vers le judaïsme et ses racines juives. Et donc, il commence à composer plusieurs œuvres, et notamment cette série de 12 chants hébraïques. À la demande de, il avait connu une jeune chanteuse yéménite qui lui avait chanté des mélodies juives très belles et dans la plus pure tradition juive. Et donc, il a écrit sur ces mélodies, ces chants hébraïques, et par la suite, cette rhapsodie hébraïque. Et moi, en tant que musicologue spécialiste des musiques juives, il y a quelque chose qui me frappe, je voudrais le dire rapidement, c'est qu'on retrouve des formules mélodiques qui sont vraiment typiques de la liturgie juive, basées sur notamment des systèmes de cartes, enfin, sans rentrer dans un détail trop technique, et puis des motifs qui se répètent, des ostinatos. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, on sent qu'il y a derrière un vécu, une connaissance de cette liturgie juive. Mireille, une question peut-être personnelle, mais quel était le rapport de votre père au judaïsme ?
Alors, comme j'aime bien ce que dit Cédric dans son introduction, parce que c'est une question assez complexe, en fait, la question de son identité, parce que donc il est d'origine polonaise, de nationalité française, il a été nationalisé en 1938, de confession juive et d'une religion un peu personnelle. Bon, alors, comme vous avez dit, il provenait d'une famille de la haute bourgeoisie juive qui n'était pas très pratiquante autant que je sache, mais enfin, je suppose quand même qu'il faisait les fêtes, etc. Et il a dû étudier en numerus clausus, donc en tant que juif. Et,
oui, parce que l'enseignement était limité aux juifs. Les juifs ne pouvaient.
C'était un nombre, je crois. C'était 10%, je crois, oui. Hein, Cédric.
On pensait que 7%.
Donc 7%, super. Bon, voilà. Donc, c'était très limité. Et bien sûr, il ne pouvait pas faire carrière dans son pays natal. Il en a beaucoup, beaucoup souffert, puisque l'antisémitisme était très virulent à cette époque. Et malheureusement un petit peu encore, en Pologne. Donc, et c'est une des raisons, probablement la raison peut-être, pour laquelle il a quitté son pays natal et il est revenu en France. Alors, il a encore beaucoup souffert de cette situation pendant à cause de la Seconde Guerre mondiale. Et il a toujours... Alors, il n'était pas pratiquant, mais surtout qu'il avait épousé ma mère, qui était d'une famille catholique, bon, et qui s'est déclarée comme juive, ainsi que ses enfants, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il a énormément souffert de cette situation, mais il a toujours revendiqué son judaïsme et la spiritualité juive. Par exemple, comme le rappelle Gérald Hugon dans son livret de Isaïe le prophète, il dit que le fait d'être juif signifiait pour lui avoir conservé en son cœur et dans son esprit les fruits d'un héritage spirituel immense, mais partiellement subconscient. Et je crois que c'est... par exemple, une de ce qu'il appelait l'œuvre de sa vie, son opéra Sabbata et Sevi, il la voulait comme, il la définissait comme un opéra juif, et ça lui tenait particulièrement à cœur. Voilà. Et alors, ensuite, ses rapports avec Israël.
Alors ça, on va en parler un petit peu plus tard. D'accord. Juste quelques mots sur cette période d'exil. Donc, votre père a eu la chance, ce qui n'a malheureusement pas été le cas de tous les musiciens, je pense notamment à Simon Lax ou d'autres, d'avoir pu échapper à la déportation. Il était, là, il y a quand même une anecdote, pardon, excusez-moi, intéressante, c'est qu'il a été sauvé par, enfin sauvé en tout cas par Charlie Chaplin, il me semble. Ça s'est fait dans quelles conditions ?
Alors, bon, sauver, c'est-à-dire que Dom, comme vous savez, donc, il a dû quitter Paris juste la veille de l'entrée des Allemands à Paris. Et donc, au bout de plusieurs péripéties, on a atterri à Nice, où on est resté plus d'un an, jusqu'en août 1941. Et pour obtenir tous les visas, qui étaient, et qui coûtaient beaucoup, donc Charlie Chaplin avait organisé un comité de musiciens aux États-Unis pour lui venir en aide et aussi pour l'accueillir. Et donc, parmi lesquels, il y avait, je ne sais pas, Toscanini, Stokowski, Reifetz, vous les avez les noms ?
Reifetz, il y avait Ormandy, Eugène Ormandy, il y avait Toscanini, effectivement. Et donc,
voilà,
Chaplin
les plus
va
grands,
piloter non. plus ou moins le départ de Tansman, oui. va faciliter le départ de Tansman depuis le Portugal, en s'occupant des billets, du voyage, etc. etc. En envoyant de l'argent, il y a une correspondance avec Chaplin.
Oui, l'argent a été intercepté, malheureusement.
L'argent a été intercepté,
bon, c'est comme ça.
Mais bref, oui. Effectivement, Tansman connaît Chaplin depuis un moment.
Oui, je crois qu'il lui a dédié un de ses concertos pour piano.
Le deuxième concerto pour piano, effectivement. Tansman rencontre Charlie Chaplin, qui est un peu son idole à ce moment-là, qui est très reconnu dans l'intelligentsia parisienne à ce moment-là. On aime beaucoup Chaplin et ses films. Et il le rencontre lors de sa première tournée aux États-Unis. Ils deviennent très amis et il va effectivement lui dédier son second concerto pour piano qu'il va créer à Hollywood. Et Chaplin va venir saluer à la fin du second concerto.
Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur cette période, d'ailleurs hollywoodienne, mais qui est de la Seconde Guerre mondiale, cet exil entre 1941 et 1946? Je crois qu'il va rencontrer là-bas d'autres musiciens juifs exilés comme lui. On peut citer quelques noms et parler un petit peu très rapidement de cette période. Est-ce que c'est ou non?
Alors, c'est une période créatrice assez... assez intense, effectivement, mais déjà l'exil à Nice, hein, Tansman a écrit nombre d'œuvres importantes pendant son exil, enfin pendant le passage à Nice. Et puis pendant la Seconde Guerre, effectivement, il s'installe à Hollywood, où vit une communauté d'artistes en exil, de peintres, de musiciens, d'artistes. Plus généralement, il devient à ce moment-là le grand ami de Stravinsky, qui est installé à Hollywood depuis, qui est arrivé un peu avant lui. Donc il fréquente presque quotidiennement Stravinsky, ce qui va lui permettre d'écrire un livre sur Stravinsky justement en 48. Et c'est une période où Tansman donne beaucoup de concerts, dirige beaucoup son œuvre, fait beaucoup de tournées à travers le pays, et puis travaille aussi parallèlement, parce que on est à Hollywood, et effectivement c'est l'industrie d'Hollywood, travaille aussi pour le cinéma. Chose qui ne l'enthousiasme pas plus que ça, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas très versé dans la musique illustrative, donc effectivement le mécanisme hollywoodien ne lui est pas très accueillant non plus d'ailleurs. Mais il va travailler avec Julien Duvivier notamment, avec David Selznick, le grand producteur de l'époque, qui a produit Autant n'emporte le vent, qui a produit les films d'Hitchcock, etc. Et donc il compose aussi quelques musiques de films à ce moment-là, et il vit dans cette petite communauté hollywoodienne d'artistes, Stravinsky, Berman et d'autres.
Millot, des grands amis, Dalla Piccola, enfin bon...
Ce qui a permis d'ailleurs aux Américains d'avoir une collection de disques qui s'appelle Musique juive américaine, dans laquelle il y a énormément de compositeurs français, en fait, puisqu'on y trouve Millot, on y trouve Tansman et d'autres encore. Je vous propose d'écouter dès à présent justement cette œuvre dont vous avez parlé, Mireille, Isaïe le prophète, une œuvre d'inspiration véritablement biblique et dans laquelle même Tansman a utilisé la prière du Schéma Israël que l'on va entendre donc dans l'extrait qui suit.
Oh!
deux brefs extraits de Isaïe le prophète, une œuvre d'Alexandre Tanzmann, écrite en 1950 dans un enregistrement de l'orchestre et du chœur philharmonique de la Radio Dilleversum dirigé par Paul van Kempen. C'est un enregistrement de 1955 qui a été remasterisé en 2012 chez Forgotten Records. Une œuvre absolument magnifique qu'il faut prendre le temps d'écouter. Une œuvre assez symbolique, je crois, Cédric, dans le parcours de Tanzmann et dans son attache au judaïsme.
Tout à fait. Alors, Isaïe le prophète, c'est un oratorio symphonique que Tanzmann avait pour habitude de citer comme la première des trois œuvres qu'il préférait dans toute sa production. Donc, c'est une œuvre qui est très importante, effectivement, à ses yeux. Et c'est une œuvre qui a été pensée par lui à la fois comme une stèle à la mémoire des 6 millions de juifs exterminés pendant la Seconde Guerre, mais aussi comme une œuvre qui entendait célébrer et saluer la création de l'État d'Israël. Donc effectivement, c'est une œuvre importante pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Pour le texte, Tanzmann a choisi plusieurs chapitres des prophéties d'Isaïe et les a organisés librement suivant une progression générale qui part de l'angoisse à la joie, en passant par différents intermèdes méditatifs, dont cette prière emblématique, Shema Israël, qu'on a entendue au tout début. Isaïe le prophète a été créé en 52 à la radiodiffusion française, sous la direction d'Alexandre Tanzmann.
Et donc Alexandre Tanzmann, est-ce qu'on sait à peu près combien d'œuvres d'inspiration juive ou hébraïque il a écrit sur ces 300
œuvres ? C'est un domaine qui reste encore à explorer pour beaucoup, d'autant qu'on n'a pas forcément exploré encore tous les manuscrits, les archives de Tanzmann sont très complexes. Je dirais une trentaine à peu près, entre 20 et 30.
Une trentaine, ce qui représente quand même presque 10% de son œuvre. Vous savez, on aime bien calculer en pourcentage chez nous. Et certains de ces œuvres ont d'ailleurs jamais été données. Hein. Vous me disiez qu'il y a un Kol Nidré, par exemple, qui existe, qui n'a pas été créé. Bon, il y a des psaumes, il y a des matovous. Est-ce qu'on peut parler vraiment, Mireille, alors, d'une œuvre juive
Non, je ne pense pas qu'on peut parler vraiment d'une œuvre juive, mais d'un grand nombre d'œuvres d'inspiration juive.
Oui, effectivement, je vais rebondir là-dessus. Je pense que le plus simple est de donner la parole à Tanzmann sur cette question, parce que dans une conférence de 62, il a prononcé une conférence qui s'appelait « Y a-t-il une musique juive ?» et dont je vous lis la conclusion. La conclusion est qu'il est difficile de parler à notre époque d'un art musical spécifiquement juif. Par contre, on peut parler d'un apport admirable à la musique universelle par des créateurs juifs, ce qui est bien plus important. J'avance un petit peu dans ces conclusions. Je pense donc que le seul facteur de base d'une musique juive reste le fait d'être juif, non définissable seulement par la pratique religieuse ou par une recherche d'un matériel ad hoc, cela veut dire avoir conservé en son cœur et dans son esprit les fruits d'un héritage spirituel immense, mais partiellement subconscient. Je pense que la position de Tanzmann est assez claire et intéressante sur la question.
Oui, ce qu'on appellera en hébreu la neshama ou la nefesh, c'est-à-dire l'âme ou l'esprit.
L'âme, oui, effectivement.
Voilà, qui imprègne ses œuvres. Et ça rejoint ce qu'on essaye de montrer dans cette émission depuis qu'elle a été créée, c'est qu'il n'existe pas une musique juive en particulier, c'est comme le judaïsme, c'est impossible à définir, mais des musiques juives et presque autant qu'il y a de juifs sur Terre.
Et tout à fait.
Voilà. Mireille, juste un petit mot avant qu'on entende un autre extrait de l'opéra dont vous avez parlé, Sabbat HaTzvi.
Oui.
Comme on l'a dit, malheureusement, votre mère est décédée alors que vous étiez très jeune, à peine 14 ans. Est-ce que cet événement, évidemment douloureux, a affecté la créativité de votre père ? Est-ce que vous avez des souvenirs de cette période ?
Oui, alors, donc je crois que j'ai souvenir du courage avec lequel mon père affrontait cette situation. Et il devait en même temps assister ma mère jusqu'à la fin de ses jours et composer. Alors je crois que c'est mieux, je préfère lui laisser la parole. Dans une série d'entretiens avec Michel Hoffman en 1967, celui-ci lui demandait jusqu'à quel point les événements biographiques l'avait impressionné et si l'on part un peu dans sa musique, retrouver la biographie intellectuelle et affective du compositeur. Et mon père répond oui, mais pas d'une manière parallèle. Ça ne se manifeste pas toujours sur le moment, mais s'imprime dans le subconscient et ça porte ses fruits plus tard. Et il donne un exemple, enfin une anecdote entre guillemets, voilà, bon, au sujet de sa Symphonia Piccola, qui est une œuvre divertissante. On lui dit qu'il a dû l'écrire dans les moments les plus heureux de sa vie. Et lui, il répond, non, je l'ai écrit dans le moment le plus triste de ma vie, parce que c'était au moment de la maladie de ma mère. Voilà.
Ah oui, donc.
Qui correspond à sa conception de l'art, qui doit être une évasion du quotidien. Et c'est pas assez... une synchronisation directe entre le vécu et l'expression du vécu, disons.
D'accord. Alors, on va écouter tout de suite donc, voilà. Un extrait, bref extrait de cet opéra Zabata et Tzvi. Malheureusement, il n'existe pas de CD original, donc c'est un enregistrement capté sur le vif avec les défauts que cela comporte. Un bref extrait de l'opéra de la fresque lyrique en prologue et catacte, Zabata et Tzvi, le faux prophète de Alexandre Tanzmann. Juste un mot encore sur Alexandre Tanzmann. Alexandre Tanzmann effectue entre le 14 et le 31 juillet 1958 son premier voyage en Israël et il en revient, paraît-il, ébloui. Mais sa position était un petit peu ambiguë peut-être.
Ce que montre Regard en arrière, c'est le moment où ses mémoires deviennent un journal personnel. En fait. Donc, on voit bien que le rapport de Tanzmann est changeant. C'est-à-dire qu'il est d'abord très vexé de ne pas être invité par Israël comme compositeur. Effectivement, Israël invite beaucoup de chefs d'orchestre, de compositeurs, mais pas lui. Finalement, il parvient à être invité en tournée. Cette tournée à l'été 58, et là, pour le coup, effectivement, c'est le choc. Il en revient absolument ébloui. Il est transcendé par cette tournée et il écrit des lettres très enthousiastes à ses amis. Il raconte, il détaille ses visites, etc., ses concerts. Alors, effectivement, c'est une position qui a évolué. Il a d'abord été un petit peu vexé d'être un peu snobé par Israël, en quelque sorte, et puis il en rentre tout à fait ébloui, effectivement.
Et d'ailleurs, parmi les compositions qu'il va à ce moment-là délivrer, beaucoup de compositions seront dédiées soit à Israël, comme par exemple une œuvre qui s'appelle Album d'Israël pour orchestre de chambre, ou qu'il adapte pour le piano sous le titre de Visit to Israel, toujours en 1958. Et à titre d'anecdote, le manuscrit de cette œuvre a été donné dans le salon de Madame Alice Alphen et donc figure dans les collections de l'Institut européen des musiques juives. Mais la créativité de Tanzmann n'a pas connu d'éclipse, même à un âge très avancé, puisque sa dernière œuvre remonte à 1982, il avait 86 ans. Elle est dédiée à Aleš Palesa, pour qui il avait beaucoup d'admiration. Mais 3 ans plus tôt, il compose une œuvre majeure qui s'appelle Les 10 commandements. Et comme vous allez pouvoir entendre un bref extrait, vous verrez qu'on est très loin de l'univers de Cecil B. DeMille. un très bref extrait de ces 10 commandements. On n'a même pas eu le temps d'entendre la moitié du premier commandement, mais tant pis, je vous invite à écouter le reste. Cédric, une dernière question. Comment pourrait-on qualifier le langage musical de cette œuvre et plus globalement de l'œuvre de Tanzmann?
Oui, alors je vais peut-être vous décevoir avec une réponse qui n'est pas très musicologique, mais je pense que la meilleure option est de ne pas chercher à le classer. Sériel, certainement pas. Tonal, oui, évidemment. Polytonal par endroit. On a vu que le langage de Tanzmann était pétri d'influences très diverses, donc je pense que la meilleure façon d'apprécier cette œuvre, c'est de ne pas poser la question, tout simplement.
Autrement dit, nos auditeurs, s'ils veulent se faire une idée de Tanzmann, il faut qu'ils écoutent tout Tanzmann.
Je pense qu'il faut oublier de classer l'œuvre de Tanzmann dans un courant quelconque.
Très bien, nous arrivons à la fin de notre émission, évidemment beaucoup trop court pour faire le tour d'une vie aussi remplie et passionnante que celle d'Alexandre Tanzmann. Et je vous ai apporté une petite surprise. Bon, on sait qu'Alexandre Tanzmann a écrit de la musique de film, mais saviez-vous qu'il a également contribué à l'arrangement de chansons yiddish? Et avant de nous quitter, je voulais vous faire entendre une de ses chansons yiddish qui s'intitule « Ver der Erste Wettlachen » sur un texte de Gebertik dans un disque 33 tours chanté par Sonia Lizaron.
Weil sicher abrimm, der Erste nicht lachen, ich weck sich, mex wie noch sie gewitzeln. Weil nehmen in Sinnen mir treuerige Sachen, nun mexst du a viel mich kitzeln. Was lachen, was lachen, was schläumele schön lachen, ich hab ein Mittel, gar aboile Sach. Nix nehmen sich in Sinnen die treuerigste Sachen, bei dir wird müssen sein der erste Lach. Das erste Abremu nehm ich mir in Sinnen, mein Oremen Katten dem Schwachen. Versucht darum Arbeit und kenne nicht gefinnen, nu wird sich mir glut und zu lachen. Was lachen, was lachen, was schläumele schön lachen, stell einer Kneppel, stell ein gegen vier. Nix nehmen sich in Sinnen die treuerigste Sachen, der erste Lach wird müssen sein bei dir. Und fäll sich der Monen, hab Nächten in Heider, die Sedre, wo's geht, ein Vergessen.
Wer der Erste, Wettlachen, une chanson yiddish interprétée par Sonia Lizaron dans un vieux 33 tours sur un arrangement d'Alexandre Tanzmann. Vous ne connaissiez pas, je crois, Cédric ou Mireille?
Ah non, pas du tout.
Voilà,
ça fait partie très intriguée.
Des mystères de l'homme. Donc, je vous encourage vivement, chers auditeurs, à faire connaissance avec donc Alexandre Tanzmann, redécouvrir son œuvre qui est extraordinaire. C'est un des grands compositeurs du XXe siècle. Et pour cela, je vous recommande évidemment de lire les mémoires de Alexandre Tanzmann, Regard en arrière, itinéraire d'un musicien cosmopolite au XXe siècle, édité par Cédric Segond, Mireille et Marianne Tanzmann. Vous trouverez donc les références de ce livre sur le site de l'éditeur, Aida Musikei, ou sur le site de l'Institut européen des musiques juives, dont je vous rappelle les coordonnées www.cfmj.fr. Je remercie infiniment Mireille et Cédric de leur présence ici pour nous accompagner dans ce voyage trop court. On aurait envie de refaire encore une fois plusieurs émissions. En tout cas, si vous souhaitez réécouter cette émission ou la conseiller à vos amis, je vous rappelle qu'elle est disponible sur le site de l'Institut européen des musiques juives, ainsi que sur judaïkefm.com dans la rubrique podcast. Vous pouvez également contacter Mireille Tanzmann, Marianne Tanzmann et Cédric Segond à travers le site des amis d'Alexandre Tanzmann. Vous tapez tout simplement Alexandre Tanzmann sur un moteur de recherche et vous tomberez dessus directement. Au micro Hervé Verhoeten, David à la technique, l'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Verhoeten sur Judaïque FM.
Sugar. I'm the sugar for my baby, and my sugar's the sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till